Je suis heureuse d'accueillir Marcel Fournier de l'Université de Montréal, biographe de Marcel Mauss, qui va nous parler de l'oncle et le neveu, les lettres d'Émile Durkheim à Marcel Mauss.
Merci beaucoup. J'aurai trois parties dans mon exposé. Le premier, c'est journal de recherche Marcel Mauss. Le deuxième, c'est le travail de transcription et de publication des lettres de, entre Durkheim et Mauss, et les, surtout de Durkheim et Mauss. Et une troisième partie, c'est ce que ces lettres nous apprennent. On rappelait aujourd'hui la date, je pense, le dépôt du fonds Wilbert Mauss au collège. J'étais un des premiers à y avoir accès, sinon le premier. Donc, ça fait presque 30 ans que je fréquente ces archives, quoi. Et donc, j'ai vu ici, j'ai vu IMEC, et je suis revenu ces derniers jours aux archives pour consulter à nouveau certaines lettres, certaines correspondances. Et je me suis permis rappeler finalement que j'avais écrit, probablement autour des années 90, un petit texte qui est paru dans une revue culturelle à Montréal, une revue qui s'appelle Possible, et le texte s'intitule « Journal d'une recherche, Marcel Mauss ». Je me permets, disons, de le lire, parce que ça va, je pense, situer un peu mon travail avec, finalement, la découverte, disons, de ce dépôt du fonds Hubert Mauss. Donc, c'est mai 1987. Le projet d'écrire une biographie intellectuelle de Mauss est né à la suite de la rédaction d'un article que j'avais fait pour le bulletin d'études durkheimiennes, qui s'appelait « Études durkheimiennes » à ce moment-là, sur Durkheim, l'année sociologique et l'art. Et j'étais professeur, je suis encore professeur au département de sociologie à l'Université de Montréal. Je donnais des cours en histoire de la sociologie. Ça s'appelait « Émile Durkheim et la sociologie française ». Je me disais, comme véritable professeur d'université, je me disais, on ne peut pas donner un enseignement qui ne soit que scolaire. Il faut que cet enseignement-là s'appuie, je dirais, sa conception nord-américaine de l'enseignement universitaire, il faut que ça s'appuie sur une recherche originale. Et on m'avait parlé, évidemment, je connaissais les travaux de Marcel Mauss, entre autres par un de mes professeurs à l'Université de Montréal, qui était Marcel Rioux, qui était le gendre de Marius Barbeau. Et Marius Barbeau avait... Il avait suivi des cours en anthropologie en Angleterre sous la direction de Maret, avait été venu à plusieurs reprises suivre des cours de Marcel Mauss ici en France. Et Barbeau avait invité Mauss à venir au Québec pour faire des recherches. Marius Barbeau s'est intéressé entre autres au potlatch, mais il avait écrit. Il y aura un élève de Mauss qui viendra aussi au Canada en 1918, ou peut-être en 14, pour être plus exact, Henri Beuchat, et qui va mourir à la suite du naufrage de son. Comme quoi la recherche en anthropologie peut être difficile et même dangereuse. Donc j'avais quand même une familiarité avec le travail de Mauss, à travers, entre autres, les enseignements de. Marcel Rioux, qui était relativement connu surtout en anthropologie, un petit peu en sociologie pour l'essai sur le don, peu dans les milieux qui m'entouraient ou au milieu de la famille. Quand je disais « j'ai fait un travail sur Mauss », on me disait « c'est qui ?» Je disais « le neveu de Durkheim ». Bon, on connaissait un peu plus, mais on n'était pas si bien connu. Il y a même un journaliste qui m'avait téléphoné en disant « nous avons appris que vous allez faire une biographie de Marcel Mauss ». On aimerait bien vous interviewer. Or, le Marcel Mauss auquel il faisait allusion n'était pas le Marcel Mauss, mais c'était finalement un homme politique très connu au Canada. Il a fait carrière au Québec et ensuite au Canada. Donc, j'ai dit, quand ma biographie sera terminée de Marcel Mauss, j'aimerais bien que vous me rappeliez que je vous fais. Je n'ai pas eu, quelques années plus tard, jamais eu de téléphone de ce journaliste. Donc, lorsque je pense que par ailleurs, donc, connaissance, finalement, de l'intérêt que pouvait avoir un travail sur Mauss. Donc, la question, c'est quoi dire de nouveau? Comment trouver, peut-être par un concours de circonstances, en juin 1988, je reviens à Paris, et je revois Philippe Bénard dans son bureau, au 54 boulevard Raspail, le chercheur au CNRS, et avec lequel j'ai toujours un grand plaisir, disons, de travailler, participer aussi à la mise sur pied de la Société des Amis de Durkheim, qui a été créé par Étienne Alphen pour poser des plaques à Paris, poser des plaques à Bordeaux. Il y en a deux même maintenant, des plaques de Maison de Durkheim à Bordeaux. Il faut lire des textes de Mathieu Béra sur ça. Et aussi la rue Émile Durkheim près de... Donc, il y avait ce travail qu'on faisait avec Bénard et M. Alphen. Donc, je vais voir Bénard qui terminait son livre sur l'anémie, qui sera publié aux presses de l'Université au PUF. Et j'ai dit, bon, j'ai le projet d'écrire une biographie intellectuelle de Mauss. J'ai dit, bon, ça n'a pas été fait, c'est une bonne idée. Et il dit, ce ne sera pas toujours nécessairement facile. Il dit, la famille veut préserver l'image du grand homme. Et je commets quand même une petite indiscrétion en disant, Mauss, comme on aimait raconter, avait une vie personnelle mouvementée, il aurait eu plusieurs femmes dans sa vie. Puis, je commence à raconter finalement le mariage avec de Mauss après sa nomination au Collège de France, et je dirais même après la mort de sa mère, Rosine, et qui tombe malade. Il commence à me raconter ça, et le Mauss qui voulait avoir quelqu'un qui s'occupe de lui devient infirmier, donc, de sa femme, qui va être alitée et qui va mourir un peu avant lui, pendant la Seconde Guerre mondiale. Je me suis dit, bon, voilà, il y a tout à faire pour une biographie qui deviendra peut-être une biographie roman, quoi. Donc, j'étais doublement, disons, excité, même si le travail apparaissait, disons, très ambitieux. Et il m'informe par la suite que la famille a déposé, les familles Mauss-Hubert, les archives au Collège de France, et que je devrais finalement m'adresser à la responsable des archives, qui était à ce moment-là Christine Delangle. Il dit, présente-toi de ma part. Et donc, je n'avais qu'une envie de courir au Collège de France. Je me rends finalement. J'essaie de rejoindre par téléphone. Ça ne répond pas à son bureau ici. Désespéré de ne pas y réussir, je me rends directement au collège, rue des Écoles. Elle est absente. Je m'assois près de la réception. Et j'attends près de, en face, disons, de la porte des archives. Je me suis aperçu en regardant que c'est ici, à côté, dans le passage, et je pense qu'au fond, l'endroit où étaient les archives, au tout début, peut-être qu'on corrigera, ce serait ici, finalement, ou derrière. Donc, on est le meilleur endroit pour parler des archives. Mauss, c'est ici, parce que, bon, les archives du collège étaient à ce moment-là, et ce n'est pas toujours facile, donc j'attends. Et 40 minutes, et une heure, donc je pars, toujours pas là, le lendemain, je reviens, et n'est pas à la porte de personne. Je me dis, bon, les archives du Collège de France, c'est une véritable forteresse imprenable. Je téléphone à Pierre Bourdieu, qui avait été mon directeur de thèse, qui est professeur au Collège de France. Il me dit, vous savez, il y a peu de choses, quelques cartons seulement. Et face à mon projet, sa réaction est plutôt froide. Tout cela relève, dit-il, de la nécrophagie, d'une volonté de déterrer les morts. Il n'est pas dit de manger les morts, mais déterrer les morts. Et si on veut faire quelque chose de sérieux, il faut réaliser une recherche approfondie. Fin de la citation. Et Bourdieu accepte néanmoins de m'appuyer dans mes démarches et dit, si vous avez besoin d'une lettre, d'un appui, je le fais. Je reviendrai en février 89, professeur invité à l'École des hautes études, et mon objectif est toujours d'aller aux archives, et de rencontrer la responsable, disons, des archives. Heureusement, Philippe Bénard me donne son numéro de téléphone personnel, et je la rejoins, et elle me donne un rendez-vous. Effectivement, bon, Christine Delang était dans la trentaine, grande, blonde, les yeux bleus, des petites lunettes, donc c'était pas l'image que j'avais d'une archiviste, plus vieille, un peu cheveux grisonnants et tout ça, donc jeune femme dynamique, qui me reçoit avec beaucoup de gentillesse, et qui dit, bon, il y a quand même, finalement, il y a beaucoup de choses, mais rien n'a été inventorié, je me proposais de le faire l'été prochain. Et pour y avoir accès, il dit, bon, il faudrait que j'aie une autorisation de l'administration. J'ai dit, bon, je connais aussi M. Agulon, professeur d'histoire que j'avais rencontré à Montréal lors de son séjour. J'avais rencontré par la suite ici aussi en France, et donc et à Montréal. Et donc, il dit, si nécessaire, je ferai une lettre, disons, à l'administrateur. Donc, j'ai deux appuis, et donc, j'ai accès rapidement aux archives et un accueil, disons, très chaleureux de la part de Madame de Christine Delangle. Et il y a une dizaine de boîtes empilées dans un coin. Ce sont les documents que la famille a remis. Je lui explique le projet. Et on se met finalement à regarder même ensemble un certain nombre, disons, de correspondances. Il y avait évidemment une correspondance de Durkheim à Mauss, mais aussi une correspondance Hubert Mauss. Et donc, je dis, bon, voilà, on se met à faire ce travail. Donc, j'ai fait pendant plusieurs reprises, quand je venais en France, pendant de longs séjours, à lire, disons, ces archives qui ont été quand même un moment, finalement, de grande émotion. Découvert, finalement, ce qu'Arlette Farge disait, bon, moi, je me suis toujours intéressé aux archives, même en tant que sociologue, mais pour mon mémoire de maîtrise avait une dimension historique. Et j'ai découvert vraiment ce qu'on appelle le goût des archives, même les odeurs, le toucher de ces archives, et aussi le sentiment de faire des découvertes. Je pense que tous ceux qui sont venus ici, dans les moments, ont ce sentiment de découvrir quelque chose à chaque fois. Presque. Je dirais pas ça à chaque jour, mais je veux dire qu'il y a un sentiment très fort de découverte et de pouvoir. Et j'avais les éléments pour pouvoir publier, écrire ce livre sur Marcel Mauss, qui était pour moi un ouvrage d'une grande. Que j'ai écrit avec enthousiasme, je dirais même avec une certaine passion. Il y a tout un ensemble, finalement, dans chacune des lettres, on voit, bon, j'y reviendrai, tous les conseils que Durkheim donne. Et la relation que j'avais avec Philippe Bénard était un peu la relation que peut-être Mauss et Durkheim avaient. Moi, j'étais plutôt Mauss et Philippe Bénard, qui était le père fouettard de la sociologie et des études durkheimiennes, jouaient le rôle de Durkheim. Donc, il y a un peu la relation qui s'est établie de complicité et qui va se traduire ensuite par publications. Donc, je ne donnerai pas, disons, tout l'ensemble, disons, de ce texte-là. Et donc, je découvre évidemment le travail de Durkheim et Mauss, la mise sur pied de la revue de l'année sociologique, la relation entre l'oncle et le neveu, je pense qu'il est bien connu. Je pense qu'on l'a rappelé encore ce matin. Finalement, Durkheim essaie de secouer la belle insouciance de son neveu. Il dit « Le mal est sans remède. Nous avons affaire à un incurable. » Et Durkheim se met au travail sous l'aiguillon, la nécessité, et souvent au dernier moment. J'ai trouvé donc des éléments, même dans la correspondance que j'ai dépouillée récemment, qui permettent finalement de confirmer, disons, tout cela. Autre chose qui était importante dans cette démarche, c'est que j'étais aussi mis en contact, soit par les membres de la famille, soit par des chercheurs, avec des témoins, c'est-à-dire des élèves, entre autres, de Marcel Mauss, donc avec Audricourt, avec Denis Paume, avec Germaine Dieterlin, Germaine Tillon, avec Louis Dumont, avec Mété, parmi les derniers. Mété, j'ai rencontré à Bordeaux, j'avais terminé mon livre, j'ai été très nerveux parce qu'il n'y a rien de pire que de rencontrer un témoin lorsque votre travail est terminé. Je me disais, est-ce que je vais être obligé de reprendre tout mon travail? Mais donc, ça s'est confirmé beaucoup des choses, certains points de détail qui ont été intéressants concernant, entre autres, le décès de Marcel Mauss, qui n'est pas apparu dans la biographie parce que je n'avais pas cette information. J'ai posé à Mété, qui était anthropologue, la question, et qui a assisté, qui participait à l'enterrement, au funérail de Marcel Mauss? Là, il était vieux, il avait sa canne, les yeux perçants, il a peur d'être frappé, il dit, si je vous le dis, vous saurez qui n'était pas là. Fin de la citation. Donc, vous voyez quand même autour de Mauss, au moment de son décès en 1950, bon, comment la situation était quand même relativement, disons, difficile. On parlait de la difficulté de son travail ici, mais je pense que la fin de sa vie était quand même quelque chose de très difficile aussi avec l'occupation et l'ensemble, disons, de ses. Voilà, bon, rappeler rapidement, disons, ces quelques éléments, disons, je dirais, d'une recherche qui vont conduire ensuite à avoir accès aux écrits politiques de Mauss et qui va conduire finalement à un ensemble de publications, qui sont les lettres de Durkheim à Mauss, dont je parlais tout à l'heure, ma biographie de Marcel Mauss, la biographie de Durkheim, peut-être un regret que j'ai eu. À la suite de ma biographie de Mauss, mon projet était plutôt d'écrire quelque chose sur Henri Hubert. C'est parmi les Durkheimiens, celui que je trouvais d'une grande sensibilité. J'aimais beaucoup le personnage. peut-être parce que j'ai aussi... Il dessinait, peut-être parce que je dessine aussi dans mes... Il faisait des peintures et des choses comme ça, des gouaches. Il a fait des caricatures de ses profs que je fais, moi, lorsque je suis dans une conférence encore. Et donc, le personnage de Hubert m'intéressait. Sauf que mon éditeur, qui était Bétourné chez Fayard à ce moment-là, il dit, mais il n'est pas assez connu, Hubert. Et il y avait ajouté, il est mort trop tôt. Il n'y a pas une œuvre assez consistante. Mais bon, quand je vois des... travailler finalement et publier les correspondances Hubert-Mauss, je me suis dit, bon, bravo, quelque chose que j'aurais aimé faire, et c'est peut-être un regret, je me suis mis sur Durkheim, mais par la suite. Donc, effectivement, la relation Mauss-Hubert est extrêmement étroite, il faudrait l'analyser plus en détail. Lorsque Hubert s'est marié, Mauss était un peu déçu, à la fois content, mais en même temps, je pense, déçu. Il y avait une relation de grande amitié qui était là, et... et la relation avec les trois, avec Durkheim, était aussi un élément important. Je dirais que dans la vie de Mauss, il y a deux décès vraiment, qui sont déterminants. Je reviendrai au premier, mais c'est la mort de Durkheim et la mort de Henri Hubert, parce que c'était un homme qui travaillait en équipe. Et il avait besoin finalement d'un un avis, un contrôle, un feedback. Et vous avez parlé ce matin du sacrifice. Bon, quand Mauss veut faire la conclusion, il s'envole. Hubert lui dit non, on laisse tomber cette dernière partie. Et lorsque Mauss a publié son ouvrage sur le don, comment il s'appelle, Hubert répond en disant, bon, je suis d'accord avec toi sur l'ensemble des choses, mais à la fin, la fameuse conclusion de morale et de politique, en voulant dire, tu vas trop loin, tu t'envoles. Donc, Hubert était celui qui ramenait Mauss au fait, à l'analyse des données, un peu plus de rigueur. Et tout ça. Donc, je pense que c'est... cette relation de Mauss-Hubert sous la surveillance disons, de Durkheim est un élément important. Donc, voilà un peu. Et j'ai terminé finalement par l'édition des écrits politiques, l'édition de la Nation avec Jean Terrier et un petit ouvrage chez Durkheim, avant Durkheim, la jeunesse vosgienne d'Émile Durkheim. Donc, quelques éléments sur la lettre, la correspondance là, de Durkheim à. À Mauss, c'est vrai que vous pouvez, je pense, vous connaissez bien cet ouvrage qui a été publié au PUF. Juste un petit élément d'histoire, puisqu'on est dans les confidences. Lorsque je l'ai publié avec Philippe Bénard, cette correspondance, je me trouvais un peu coincé entre le Collège de France et les PUF. Qui avait au Collège de France, il y avait Bourdieu, qui m'a donné l'autorisation de venir au fond, et qui était du côté des PUF, c'était Boudon, qui dirigeait la collection Sociologie, et Bénard travaillait aussi, et voulait que ce soit au PUF. Et donc, il y a eu toute une négociation. Et Bourdieu a voulu que ce soit au Collège de France, et dit, nous allons créer, si nécessaire, une maison d'édition du Collège de France pour publier ça. Bon. Ça n'a pas eu lieu. Du côté du PUF, ça continuait finalement à travailler. Et finalement, on est arrivé à un accord. Bourdieu a dit, je ne peux pas me battre toujours sur tous les fronts en même temps. Baisser un peu les bras. Puis il a dit, ça sera une condition, ça sera au PUF, mais pas dans la question sociologie. Or, les correspondances ont été malgré tout publiées dans la collection Sociologie, l'argument de l'éditeur étant de dire, si on publie ça à l'extérieur de la collection, ça risque de ne pas être bien diffusé, etc., etc. Donc, vous voyez quand même cette petite histoire autour de... Et je pense je reviendrai un peu sur ces archives et les enjeux autour de ces archives et de ces publications. Donc, on a eu un travail avec Bénard, donc très sérieux, très difficile, avec la collaboration de Christine Delande, d'autant plus, comme on l'a dit, l'écriture de Durkheim est extrêmement difficile à décrypter. Peut-être c'est pour ça que je porte des lunettes maintenant pour lire. Et il y avait la même chose chez Marcel Mauss. Je trouvais qu'il écrivait un peu mieux, mais j'ai ici découvert, en regardant disons, les archives plus récemment, une lettre de Mauss à Hubert en 23. Il dit « Mon écriture est vraiment horrible ». C'est Mauss qui dit ça. Mais avec de l'application et mes plumes de 10 sous, je peux encore répéter mes lettres. Amitié à Alma, baiser à Dicky, ton Marcel. Donc, vous voyez, Durkheim et Mauss étaient extrêmement, difficiles à lire. Et je me suis aperçu, Dans ces lettres, bon, dans la présentation de l'ouvrage, vous pouvez regarder, on met, disons, le travail qui a été fait, les difficultés auxquelles on a été confrontés. Il y a beaucoup des lettres de Durkheim qui ne sont pas datées. Ils n'étaient pas en ordre chronologique et c'est extrêmement difficile de pouvoir les dater. Des fois, c'est dimanche, des fois, jeudi. Souvent, il y a une référence à un événement, à une personne. Donc, on a réussi à dater la plupart des lettres. Quelques-unes sont sans date. On réussira à les dater. Donc, la correspondance est inégale selon les périodes. Surtout lorsque Durkheim est à Bordeaux et que Mauss est à Paris, bon. Mais lorsque Durkheim et Mauss sont à Paris, bon, il y a donc la période de l'éducation de Mauss, qui est très importante, et la formation du neveu, et aussi la période, disons, de la première guerre. Et souvent, bon, les correspondances s'échangent assez rapidement. Dans la même journée, on peut envoyer quand même de Bordeaux à Paris, ou même de Bordeaux en Angleterre, disons, un courrier. Même, donc, il y a des lettres, Durkheim, des fois, écrit presque tous les jours. J'ai commencé à regarder les lettres de Rosine de Mauss de Rosine à Mauss, souvent, bon, c'est presque à tous les jours. Donc, c'est quand même une correspondance très assidue, comme je disais, avec les problèmes de mise en édition. Est-ce qu'on corrige les fautes de français? Est-ce qu'on les lapsus, on les a laissés? Il y a compte rendu, bon, il y a tout un ensemble, disons, d'indications que l'on donne, finalement, sur ce travail. J'avais terminé, finalement, on mettait, finalement, les remerciements, mais j'aimerais, disons, peut-être rappeler juste une chose. Le travail, disons, de Christine Delangue n'a pas été suffisamment reconnu dans cet ouvrage. On a mis, bon, édition et présentation, Philippe Bénard, Marcel Fournier, sur la page couverture. À l'intérieur, c'est marqué la même chose, en collaboration avec Christine Delangue, qui n'avait pas comme telle participé à la rédaction, disons, du texte de présentation, mais qui avait eu un rôle extrêmement important au niveau de la transcription. Je pense que pour des questions éditoriales et aussi administratives, elle avait reçu aussi un revenu additionnel pour son travail de transcription. Et je pense que le regret que j'ai, c'est ne pas avoir reconnu l'archiviste d'alors, la contribution extrêmement importante qu'elle a fournie. Donc, la dernière partie, c'est, au fond, ce que ces lettres nous apprennent. C'est vrai qu'on n'a que ce que Durkheim dit, parfois des réponses de Mauss, parce que Durkheim renvoie la lettre en disant « Regarde ce que tu as écrit. C'est complètement idiot ce que vous venez de dire, ce que tu viens de dire. » Donc, il renvoie. Donc, ça a permis d'avoir... les deux lettres, celle de Durkheim et celle de Mauss, et celle de Durkheim et celle de Mauss. C'est vrai que ça concerne, bon, des affaires personnelles, la famille, le travail, les carrières, la politique. Le style est rapide, le ton intime. Il ne s'agit pas d'écrire pour écrire, et donc souvent Durkheim est très pressé. Il y a beaucoup de choses, finalement, qui doivent... il est pressé, et donc il y a beaucoup de choses qui doivent aboutir. Il est inquiet face à l'attitude de son neveu, face au travail, disons, de ses collaborateurs. Et c'est un ensemble, disons, de conseils. Je pense que Jean-François Hébert a raison de dire qu'on trouve dans ses correspondances tout un ensemble de conseils qui nous permettent de voir quelle est la conception que Durkheim se fait du travail, de bien indiquer, et même tout ce qu'il donne comme conseil à Durkheim lorsqu'il est étudiant, lorsqu'il prépare, disons, entre autres, son agrégation, c'est des conseils bien précis. Ce sera la même chose lorsqu'il y aura l'année sociologique, il donne des conseils très précis sur les rédactions, disons, des comptes rendus. Il faut dire que Durkheim a aussi réécrit les comptes rendus de Mauss. Il faut aussi dire que Mauss a aussi travaillé, disons, sur des textes de Durkheim. Il le dit lui-même, en fin de compte. Je pense qu'il faut voir pas uniquement le travail entre Hubert et Mauss comme étant collatéral dans les deux sens, mais aussi le travail avec Durkheim peut se faire aussi. Même si Durkheim a une prépondérance, une autorité, il accepte quand même les critiques, il accepte les commentaires, et je pense que ce qui était dans un sens du maître à l'élève va se transformer graduellement. Je pense que cette correspondance entre Durkheim et Mauss, c'est quand même une belle correspondance entre l'oncle et le neveu. Et donc, c'est rare de trouver ce type, disons, de correspondance, ce type, disons, de relation, à la fois, disons, très proche et en même temps très différente. C'est deux personnalités, c'est vraiment deux façons un peu de concevoir la vie. de mode de vie. Un est plus bohème, l'autre est plus sévère, plus sérieux, plus discipliné. Donc, etc., etc. Donc, on connaît, disons, les caractéristiques, disons, de la personnalité des... Donc, il y a des moments de crise. Maud s'arrête d'écrire, se réfugie. Durkheim pleure, Durkheim crie. J'ai même vu dans les correspondances que j'ai revues, parce que je pense que ces correspondances vont être... On va devoir les rééditer, parce qu'en revenant dans les archives, je me suis aperçu qu'il y a quand même un certain nombre de petites lettres de Durkheim à Maud qui se retrouvaient dans d'autres dossiers, dans le dossier Rosine ou dans d'autres dossiers, de sorte qu'il va falloir, disons, dans une question, à un moment donné, bon, on savait, mais Durkheim dit tout simplement « Tu es un barbare ». Bon, voilà. On voit aussi, ça vous a intéressé dans ce que j'ai découvert, par ailleurs, c'est probablement dans les années 20 ou 30, Marcel Mauss fait un cadeau à sa tante Louise Durkheim. Et elle lui dit, tu aurais dû mettre, comme dédicace, le travail qu'on fait de dépouillement que je fais avec M. Béra, tu aurais dû mettre comme dédicace au dévoué secrétaire adjoint de l'année. C'est pas mal. C'est-à-dire que Mme Durkheim était quand même vraiment la secrétaire, elle se disait la secrétaire adjointe de l'année. Et elle ajoute, point, le plus fidèle et le plus inexact de ses collaborateurs. Elle parle de Mauss à ce moment-là. Et voilà comment je t'écris sur du si beau papier. Tu m'as offert tout ce qu'il fallait pour bien remplir mes fonctions de secrétaire. Ta tante dévouée Louise. Donc, c'est assez intéressant ce qu'elle dit. Elle montre finalement qu'il y a un personnage qu'on oublie souvent dans toutes ces relations, c'est le rôle de Louise Durkheim. C'est la même chose seulement dans les relations entre Durkheim et Mauss. On s'aperçoit dans les lettres que la famille entre en ligne de compte et Henri Hubert, comme d'autres Durkheimiens, collaborateurs, sont intégrés et reçus à Épinal. Donc, on a des photos de... J'aurais dû présenter, on voit Mauss, Durkheim, il faut connaître, mais je pense que Hubert était vraiment un membre de la famille. Il y avait des relations aussi financières, des prêts qui se faisaient, soit Durkheim, soit que la famille Mauss avait prêté de l'argent à Hubert, soit que Mauss avait prêté, lui, de l'argent à Fauconnet. On connaît l'histoire de la boulangerie, qui était une coopérative, et Mauss avait investi pas mal d'argent. 20 000 francs à l'époque, et il y avait un docteur qui avait aussi fait la même chose, et la boulangerie va faire faillite. Et Durkheim est furieux. On s'est dit, c'est l'argent de ta famille, c'est l'argent de ta mère, des choses comme ça. Donc, vous voyez, dans la correspondance, on voit, disons, cette relation très compliquée, qui est à la fois d'amitié, de travail, et même au plan, disons, des relations politiques, on voit très bien qu'est-ce qui va distinguer Durkheim, disons, de Mauss. Donc, peut-être... comme je disais, bon, Durkheim donne des conseils. Tempeste, c'est le directeur d'une revue qui donne aussi des orientations. C'est l'ami qui, à certaines occasions, va aussi se confier et va démontrer finalement ses appuis et son affection. C'est un homme d'une grande générosité, aussi d'une grande sensibilité. Il peut, en lisant la lettre d'un collaborateur, quelqu'un qui il sent les sentiments. Il dit, à travers la manière dont c'est écrit, Sylvain Lévy, je pense qu'il y aura une correspondance, je pense, qui va être publiée de Sylvain Lévy et de Durkheim, ou Mauss, mais Sylvain Lévy disait de Durkheim, il a une sensibilité féminine. Bon, fin de la citation. Donc, il y avait c'est un homme généreux, d'allure sévère, mais d'une grande générosité, aussi d'une grande... Donc, comme je disais, bon, il y a les liens de la famille, il y a les liens, disons, entre les collaborateurs. S'il y avait quelque chose que j'aurais dû faire, donc c'est peut-être la journée où je ferai quelques regrets, manifesterai quelques regrets, c'est de ne pas avoir plus travaillé. J'ai découvert dans les archives, finalement, ici, beaucoup de lettres, quelques lettres d'André, le fils de Durkheim à Marcel Mauss. Et donc, un lien, disons, quand André Durkheim va mourir, Mauss perd, disons, il dit... un ami, un frère, c'est une relation très étroite. Il y a aussi un lien que j'aurais voulu plus analyser, c'est la relation entre Marcel Mauss et son frère, Henri, qui lui est resté à Épinal et qui va prendre la succession de l'entreprise. Et ils vont se côtoyer jusqu'à la mort de Marcel Mauss. Ce sera à Paris lorsque Marcel Mauss va mourir. Donc, vous voyez, ce lien entre les deux frères, la fratrie, c'était deux enfants, aurait été intéressante à analyser. Comment l'un voyait l'autre, comment l'un appuyait l'autre. Donc, il y a d'autres choses seulement à voir à ce niveau-là. Donc, il y aurait des tas de petites choses seulement que j'aimerais rappeler. Je ne sais pas si le temps passe trop rapidement. Je pense que ça a été assez bien dit, disons, qu'il y avait le rôle de la famille. Durkheim va devenir un tuteur pour Marcel Mauss. Il va dire à sa sœur, à un moment donné, il va dire à Mauss, on voit ça dans la lettre, si vous avez lu la correspondance, il va dire, bon, ta mère m'a confié ton éducation. Et il ajoute, finalement, pour le meilleur et pour le pire. Donc, vous voyez, quand même, il était conscient de la difficulté d'être tuteur. C'est lui qui va être aussi le tuteur d'Henri Durkheim, le fils de Félix. Donc, Durkheim joue un rôle de tuteur, de chef d'école, hein, d'une certaine mesure. Et donc, vous voyez quand même, il donne des conseils. C'est lui qui donne le conseil à Mauss d'aller poursuivre des études en sciences des religions, à l'école pratique des hautes études. C'est lui, Mauss va vouloir aller dans l'enseignement secondaire, et c'est Durkheim qui va dire non, il vaut mieux poursuivre tes recherches. Et il va partir pour la Hollande et ensuite pour l'Angleterre. Donc, Durkheim donne des conseils très précis. Mauss, bon, accepte tout en gardant, disons, son quant à soi en ce qui concerne la carrière qu'il veut faire et la manière dont il veut travailler, en acceptant évidemment cette collaboration avec... Donc, comme on l'a indiqué aussi, des tas d'informations sur les stratégies de carrière. Une intéressante, c'est qui va entrer le premier à l'école pratique des hautes études dans la section d'études des sciences religieuses. Marcel Mauss ou Hubert. Et Marcel Mauss dit, bon, ça serait peut-être plus à toi à te présenter premièrement, et moi, je verrai par la suite. Donc, il y a quand même entre les deux une très grande amitié, et en même temps, bon, on fait une stratégie qui fait en sorte que, bon, peut-être que Hubert a eu le poste, mais peut-être que Mauss aurait pu ne pas l'avoir par la suite. Mais donc, vous voyez, quand même, ces stratégies de carrière. Bon, la mère de Mauss n'était pas très heureuse que Mauss soit à l'école pratique. Il voulait qu'au fond, il y avait trois grandes préoccupations pour la mère de Mauss. Rosine, c'était marier son fils. Parce qu'il disait, plus tu avances en éducation, des diplômes et tout ça, plus ça va être difficile de te trouver quelqu'un. Et plus tu avances en âge, tu risques de plus en plus de faire un mariage sot. Donc, il s'est marié à 62 ans, je pense. Donc, il était peut-être un peu âgé pour se marier. Est-ce que c'était marié? Donc, la deuxième chose, c'était évidemment la thèse de doctorat. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle dit, j'attends. Ça fait 15 ans que j'attends cette thèse. Est-ce que j'aurai le plaisir de? Et donc, vous voyez encore une mère donc, qui attend. Et la troisième chose, c'est les questions d'argent. Mauss, ça paraissait un peu dépensier, etc., etc. Et elle disait souvent, l'école pratique, c'est une souricière. Ce qui est bien parce qu'au fond, Mauss, avec un seul S en allemand, ça veut dire une souris. Donc, Mauss était pris dans une souricière parce qu'elle considérait que ce n'était pas suffisamment prestigieux et pas assez payant. Donc, il y avait quand même, dans cette correspondance, on trouve, disons, des tas de conseils, disons, une morale économique qu'on retrouve. Je pense qu'on pourrait faire la même chose avec Durkheim. Quelle était la morale qu'il avait domestique? Dans ses reproches, à un moment donné, Mauss, il y a une histoire avec une femme, mais on ne sait pas si... il doit le révéler ou non à sa mère. Durkheim lui dit non, reste discret, elle serait très blessée par tout ça. Et Durkheim se moque un petit peu de Mauss en disant tu rigoles de notre communisme familial. Donc, cette communauté que formait cette famille. Donc, on voit quand même pour que Durkheim, il y avait à la fois un respect des règles, d'une autorité, mais aussi une certaine, oui, des obligations morales que les membres d'une famille. On voit aussi les liens avec les collègues. Bon, Spinoz, Tarde, plus tard Van Gennep, et tout ça, c'est à la fois des gens proches, mais en même temps, ils sont en compétition. Sur l'année sociologique, je ne reviendrai pas, mais il y a des tas de choses qu'on apprend dans ces lettres qui montrent bien que c'est un travail collectif. Un travail collectif, et ça, je terminerai, disons, sur... ils regrettent souvent que ce soit aussi un travail anonyme auquel on consacre beaucoup de temps, au dépend de son travail, donc, de travail proprement personnel. Lui-même va dire, je travaille plus de 4 ou 5 mois par année, c'est à faire des comptes rendus, à écrire, à gérer, disons, cette revue, c'est trop. Il disait la même chose à ses collaborateurs, j'ai l'impression que vous perdez le meilleur de votre temps, on gaspille, disons, de votre temps. Donc, je pense qu'il y avait, et c'est quand même gaspillage de temps et aussi, bon, de grandes tensions, voire de crises, à plusieurs reprises. Il y a quand même quelqu'un qui se décourager, et qui dit, bon, c'est fini, il faut fermer ça, il faut fusionner. À un moment donné, bon, Hubert dit, je vais m'occuper des livres et de tout ça. Il est très furieux parce que Mauss veut quitter à un moment donné. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Donc, c'est une relation qui est à la fois forte, dense, mais avec des périodes de crise, de tension et de crise. Et donc, peut-être au fond, je terminerai peut-être au fond sur les questions politiques, je ne veux pas y revenir. Bon, c'est vrai que la correspondance nous donne beaucoup de choses aussi. L'affaire Dreyfus, la position de Durkheim à Bordeaux, les difficultés. J'avais même vu à un moment donné des lettres de Durkheim, de Rosine à Mauss, qui dit, lorsqu'il était en Angleterre pendant l'affaire Dreyfus, il dit, je ne vois pas d'avenir pour toi et ton frère en France. Allez à l'étranger. C'est pas mal. Elle voyait, disons, déjà l'antisémitisme à Épinal. Bon, l'action politique. Bon, Durkheim était favorable au socialisme, mais il ne s'est jamais engagé. Il reproche souvent à son neveu de perdre du temps, de gaspiller du temps, et ça revient, disons, très souvent. Et ce qui est probablement très intéressant, c'est toute la période, disons, de la guerre. Je pense qu'il y aurait à revoir ces lettres-là, à peut-être faire un ouvrage, peut-être je le ferai en collaboration peut-être avec Mathieu Béros, si on a le temps. On n'a jamais le temps de tout faire sur Mauss à la guerre. Et qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de, Jean-François nous a dit, il y a peut-être une ethnographie de Mauss. Et donc, on apprend beaucoup de choses pendant dans cette correspondance. Et je pense que vous connaissez finalement le drame de la vie de Durkheim, qui est aussi un drame pour Mauss, c'est la mort en 1917 d'Émile Durkheim. Et il y a des lettres qu'on retrouve. Je pense que vous les connaissez, mais j'aimerais peut-être juste vous les relire. Une première qui dit, évidemment, dans la mesure où on peut prévenir l'avenir, la mélancolie sera le mode de ma vie. Il faut dire qu'il avait déjà connu Durkheim des crises, 2 ou 3 crises de neurasthénie, de mélancolie, de dépression. Je poursuis. Je ne vois si je vivrai, si je rirai. Je ne sais si je rirai jamais, mais je peux me passer de rire. Et ma vie a tout l'air de s'orienter dans ce sens. Cette sensation de détachement de ce qu'on n'a plus d'intérêt temporel est quelque chose seulement de, avec lequel cette sensation de détachement dû à ce qu'on n'a plus d'intérêt personnel, me donne une impression d'allégresse très grande. Et il termine, il écrit, disons, quelques jours plus tard, une autre lettre, et là, c'est dicté à Louise, parce qu'il ne peut pas utiliser sa main droite, donc c'est dicté à Louise qui écrit. Et Louise dit, « Il souffre d'insomnie et de spasmes nerveux. » Et elle continue, voilà, son écriture, bon, est presque indistincte. Le médecin lui conseille, disons, la détente la plus complète. Donc, et là, elle cite Durkheim lui-même, c'est Durkheim qui parle, « Tout cela m'enrage. » Et il ajoute, « Vaut mieux mourir que de vivre ainsi. » Et quelques semaines plus tard, il va mourir et c'est Henri Hubert qui envoie un télégramme à Marcel Mauss, tout simplement pour dire « Durkheim est mort subitement vers midi ». Fin de la citation. Je pense que ça met un peu quand même l'intérêt de ces correspondances, l'intérêt aussi de… Il faut connaître le contexte, il faut connaître, disons, les drames qu'ont vécu, disons, ces chercheurs. Ça me permet, disons, d'arriver à la conclusion. Donc, en dépouillement, disons, récemment, les archives, finalement, Hubert Mauss, et entre autres les lettres de Durkheim Et à sa sœur Rosine, on a quand même découvert un certain nombre de lettres qu'il va falloir, disons, comme je le disais, rééditer. C'est, ça va être pendant la guerre. C'est toujours intéressant, finalement, ce qu'elle dit. Bon, à un moment donné, il est question d'envoyer à Marcel Mauss un paquet. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? Un saucisson de Lyon, une boîte de poulet froid, une boîte gélatine de chocolat à cuire et de chocolat croqué, et des bonbons acidulés. Vous voyez un peu ce qu'il écrit, disons, pendant cette période, où il va écrire, disons, une lettre, encore, finalement, là, c'est le frère de Mauss qui écrit à Marcel Mauss, il dit « Maman, c'est Rosine, va bien, on a engagé une bonne, les affaires sont nulles. » Ça revient souvent, l'entreprise familiale, ça ne marche pas. Donc, pour terminer, donc, je reviendrai peut-être un seul autre regret. Lorsque j'ai fait l'édition, disons, de la Nation avec Jean Terrier, je pense que la participation de Terrier aurait pu être plus significative. Ça aurait pu être édition, présentation, Jean Terrier et Marcel Fournier, non pas celle qui a été choisie, parce qu'il était un des maîtres d'œuvre de la transcription de ce travail. Et j'aurais peut-être aimé qu'au niveau de l'édition, il y a Mme Florence Weber qui est là, j'aurais bien aimé que ce soit plus visible, finalement, que c'était non pas la réédition, finalement, de La Nation, de textes de Mauss connus sur La Nation, mais l'édition du manuscrit complet. Et ça n'est pas apparu comme tel auprès du public cultivé ou du grand public. Et le titre apparaît, disons, que je suggérais, c'est un titre que Marcel Mauss avait suggéré dans ses premiers manuscrits, c'était « La Nation » ou « Le sens du social ». Donc, j'aimais bien juste peut-être une dernière chose sur « La Nation », mais je ne sais pas si je trouverai. Mais donc, j'arrête un peu sur, au fond, ces deux regrets. Et je dirais, disons, si vous me permettez, en terminant, il y a quand même autour de ce trésor que constituent les fonds Hubert Mauss, un véritable trésor, il y a quand même une certaine concurrence, une compétition, je dirais même des luttes, qui sans être sanguinaires, sont parfois féroces. Et les reconnaissances du travail de l'un par l'autre, souvent, ne sont pas indiquées. Je pense qu'il faudrait, d'une manière, disons, on est plusieurs des chercheurs qui travaillons sur le fonds Mauss, disons, je dirais, bon, il faudrait plutôt concevoir les études maussiennes, plus largement les études de durkheimiennes, comme Mauss et Durkheim, disons, le considéraient, c'est-à-dire comme un véritable travail collectif, permettant, disons, de tisser entre nous de véritables collaborations et aussi, pourquoi pas, des relations d'amitié. Merci.
Merci. Alors, nous avons le temps.